Bonjour à tous, bonjour Fred, bienvenue sur Vitamine C, le magazine des chrétiens qui se bougent. Toutes les semaines, retrouvez un concentré d'actu chrétienne des diocèses de Bayeux-Lisieux et de Coutances-Avranches. Au sommaire de ce magazine, retrouvez Monseigneur Jean-Claude Boulanger, évêque du diocèse de Bayeux-Lisieux, ainsi que Florence Panontin pour un tour du monde assez particulier.
L'actu.
Depuis le dimanche 2 décembre, nous sommes rentrés dans la période de l'Avent, période qui précède Noël. Je pourrais vous en parler pendant des heures, mais Monseigneur Boulanger, évêque du diocèse de Bayeux-Lisieux, le fera beaucoup plus clairement que moi.
L'Église nous invite à attendre la venue de Dieu dans notre monde. Et là, nous allons, pendant 4 dimanches, nous préparer à accueillir la venue de Dieu dans la naissance de cet enfant. Et je pense que c'est se préparer le cœur, surtout, et dans la prière, dans la joie aussi. Parce que quand on a beaucoup attendu et que l'événement arrive, qu'est-ce qu'on est heureux? Celui qui n'attend rien, il ne peut pas être heureux. Donc quelque part, on ne maîtrise pas Dieu. Voilà ce que ça veut dire. Et il va naître à Noël, bien sûr, mais c'est symbolique. Il ne cesse de naître chaque jour dans notre vie. Mais l'attends-tu vraiment? Es-tu en attente de sa présence? Si tu n'attends rien, tu ne vas pas découvrir sa présence. Vous voyez, on revient au fondement de notre relation à Dieu, mais c'est aussi notre relation aux autres, notre relation à nous-mêmes. Je pense que ce temps de l'Avent que l'Église nous propose, c'est pour préparer notre cœur à mieux rencontrer Dieu dans notre vie, mais il est déjà là, et en même temps, je l'attends chaque jour, et plus spécialement à Noël.
En réponse à l'appel du pape François dans la lettre au peuple de Dieu, suite au scandale des abus sexuels, Monseigneur Le Boulch, évêque du diocèse de Coutances, a répondu à l'appel du Saint-Père en proposant dans le diocèse des temps de prière et un jeûne le vendredi 7 décembre au commencement de l'Avent. Dans vos paroisses, de nombreuses initiatives sont organisées pour que vous puissiez prier ensemble. À la cathédrale de Coutances, de 12h45 à 14h, un temps de prière est prévu. Le 8 décembre marque la fête de l'Immaculée Conception, célébration de la Vierge Marie qui nous rappelle la destinée unique de cette femme choisie par Dieu pour porter son Fils. Pour vous en apprendre un peu plus, le 8 décembre, jour choisi pour cette fête, fait référence au dogme promulgué par le pape Pie IX le 8 décembre 1854, où la Vierge Marie est déclarée préservée du péché originel dès sa naissance. Venez célébrer ensemble l'Immaculée Conception à 18h30 à la cathédrale de Coutances. Fred, est-ce que vous avez commencé à préparer votre sapin ou bien la crèche ?
Eh bien non, Philippe, je n'ai pas encore acheté mon sapin, je fais partie des retardataires, mais ça ne serait tardé. En revanche, ouais, j'ai bien préparé ma crèche, on a ressorti les santons, dont un petit dernier qu'il faudra mettre simplement après le 25 décembre.
Cher auditeur, si l'inspiration vous manque pour faire vos crèches cette année, vous en trouverez certainement à Lisieux, puisque c'est un tour du monde bien particulier qui nous est proposé. Et pour nous en parler, nous recevons Laurence Panontin. Laurence, bonjour.
Bonjour. Alors l'exposition des crèches que nous avons ouverte à Lisieux le 1er décembre dernier est la 13e du nom. C'est une exposition de crèches qui viennent du monde entier. Il y a 60 pays représentés, il y a 321 crèches exposées.
Comment avez-vous fait pour réunir autant de crèches ?
Alors ces crèches sont, pour certaines d'entre elles, nous sont prêtées par des collectionneurs qui, de façon tout à fait bénévole, ont proposé, les années faisant, à nous prêter telle ou telle crèche. En plus, il y a une partie des crèches, peut-être la moitié, qui appartiennent au sanctuaire de Lisieux. Depuis quelques années, en effet, il est devenu fréquent que des gens offrent une crèche au sanctuaire, des gens qui viennent ici à cause de Sainte Thérèse, bien sûr, qu'ils aiment et qu'ils viennent prier, et qui offrent une crèche à Thérèse. Et il y a depuis quelques années également un reliquaire de Sainte Thérèse qui voyage à travers le monde, et il arrive encore que ces pays, en remerciement de la visite que Thérèse leur a faite, eh bien, envoient ou font faire spécialement une crèche qui arrive ici au sanctuaire. Et puis, parmi les gens qui offrent des crèches, il y a des gens qui viennent comme ça spontanément. On a eu, par exemple, cette année, une famille, je crois que c'était le Guatemala, si je ne me trompe pas, un monsieur qui travaille la céramique et qui nous a apporté une crèche qu'il a fabriquée pour que son pays figure parmi les crèches exposées.
Merci Laurence Panontin.
Je vous en prie.
Vitamine C a interviewé ce matin Sarah Van Beer, paroissienne de l'église anglicane de la Miséricorde, pour nous parler d'un événement bien particulier.
C'est un événement qui se passe chaque année, 2 ou 3 semaines avant Noël. C'est ce que nous appelons en anglais « 7 Lessons and Carols », qui sont des lectures de l'histoire de la naissance de Jésus-Christ avec des chants de Noël qui sont traditionnels, et il y a des carols spécifiques que la chorale va chanter. Une chorale qui vient de l'église Saint-Georges à Paris.
Quel est votre chant préféré?
Ah, je pense que c'est « O come, O come, Emmanuel ». C'est très beau comme mélodie, mais ce qui est extraordinaire, c'est quand nous chantons à cette occasion-là, avec la chorale aussi, ils ont des voix magnifiques.
Vous êtes invité à l'office de chant et de lecture de l'Avent à la chapelle de la Miséricorde à Caen. C'est le dimanche 9 décembre à 17h30. Merci beaucoup Sarah Van Beer d'avoir été avec nous.
Idée de sortie.
Nous sommes bien dans l'Avent et c'est le début des animations de Noël à faire en famille sans modération. Les paroissiens de Cabourg, Dives et d'Ozulé vous invitent le samedi 15 décembre pour un spectacle de crèche vivante à 15h30 et à 17h30 dans l'église de d'Ozulé où petits et grands ont travaillé pour offrir un beau spectacle. Chacune des 2 représentations sera suivie d'un temps d'adoration et de partage. Durée 30 minutes, entrée libre. Vous êtes attendus nombreux.
La Minute Saint-Hildegarde.
C'est la Minute Saint-Hildegarde avec Anne-Marie Profi, l'occasion pour vous de découvrir cette sainte qui fêtera bientôt son 920e anniversaire.
Hildegarde de Bingen meurt le 17 septembre 1179 au monastère du Rupersberg, la première de ses fondations où elle est arrivée il y a presque 30 ans. Elle connaît par révélation divine le jour de sa mort. Elle est alors âgée de 81 ans, ce qui est quand même remarquable au Moyen-Âge. Les sœurs qui la veillent voient apparaître dans le ciel 2 rayons lumineux de diverses couleurs qui se croisent pour former une grande croix de lumière entourée d'une multitude de petites croix. Une suave odeur de sainteté émane de sa tombe. Voilà ce que l'on dit de la mort d'Hildegarde. Reconnue sainte de son vivant, les pèlerins affluent pour demander grâces et miracles sur le tombeau de la sainte, ce qui se produit au point que les religieuses vont demander à l'évêque du lieu d'interdire ses dévotions qui finissent par gêner le recueillement et la prière des religieuses. Mais Hildegarde a eu une vie très tumultueuse, 78 ans de vision et presque autant de combats de tous ordres. La fin de sa vie a été marquée par 2 conflits majeurs. Le premier, c'est le schisme fomenté en 1160 par l'empereur Barberousse. Barberousse qui a été l'ami d'Hildegarde. Mais tout change quand il nomme lui-même les antipapes. Hildegarde combat alors de toutes ses forces pour faire reconnaître le pape légitime Alexandre III. Ce conflit sera résolu au moment même où Hildegarde meurt, par le concile de Latran III qui fixe les lois d'élection des papes. Le deuxième conflit majeur, c'est avec l'archevêché de Mayence dont dépendait directement le monastère et il sera résolu très peu de temps avant la mort d'Hildegarde. C'est un conflit autour d'une sépulture accordée dans le monastère à un homme qui aurait été excommunié, donc privé de sépulture catholique. Le monastère est alors frappé d'interdit, les sœurs sont privées de l'Eucharistie et de chanter les offices, ce à quoi elles obéissent bien que très affligées. Hildegarde tente de s'expliquer plusieurs fois avec les prélats de Mayence. Elle demande la levée de l'interdit, mais rien n'y fait. Alors Hildegarde écrit une magnifique lettre d'éloge sur le chant liturgique. Elle admoleste violemment les prélats. Après plusieurs rebondissements, l'évêque de Mayence lèvera l'interdit et demandera pardon, quelque temps juste avant la mort d'Hildegarde.
Cette semaine, on découvre le cristal de roche et ses effets sur la thyroïde.
Hildegarde de Bingen a développé les vertus thérapeutiques des pierres précieuses dans son livre « Le Liber Lapidarum » qui est inclus dans le Physica. Elle parle de leur force curative et de leur viridité, comme pour les plantes ou les animaux. Alors attention, les pierres précieuses décrites par Hildegarde font référence aux pierres portées par les prophètes et à celles de la Jérusalem céleste dans l'Ancien Testament. Il ne s'agit donc pas de magie, ni de superstition, ni d'énergétique pure. Aujourd'hui, nous allons parler du cristal de roche, jolie pierre à l'éclat translucide. Elle est indiquée dans les pathologies de la région du cou, maladies virales ou bactériennes de la gorge, avec une augmentation du volume des ganglions, classique. Et aussi pour les troubles de la thyroïde, notamment l'hyperthyroïdie avec les symptômes associés. Dans ce cas, porter un collier de cristal de roche qui passe donc sur le cou et à même la peau, c'est important, permet de soulager ces maux. Je reçois de nombreux témoignages d'amélioration, voire de disparition des symptômes, grâce au port de ce collier, qu'il faut garder 24 heures sur 24 et à vie. L'amélioration apparaît en général 6 mois à 1 an après et le médecin généraliste adapte le traitement allopathique. Il est conseillé de renforcer l'action du collier par la consommation d'eau cristalline, non pas la marque, mais en fait il s'agit de déposer une pierre de cristal de roche dans la bouteille en verre de votre eau de boisson et de la laisser en permanence ou au moins une nuit. Ce qu'il faut savoir sur les pierres en général. Très important, ne pas les acheter n'importe où, car il y a beaucoup de contrefaçons et les revendeurs des produits huile de garde les garantissent. Le deuxième conseil, c'est de toujours rincer abondamment la pierre ou le collier sous l'eau du robinet, voire sous l'eau de source, qui est idéale, avant de l'utiliser et régulièrement une fois par semaine. Et puis, il faut régénérer les pierres au soleil une fois la semaine pendant quelques heures. Alors, si vraiment il n'y a pas de soleil du tout, on peut déposer les pierres dans une coquille vide de coquille Saint-Jacques et on obtiendra le même effet.
Merci Anne-Marie Profi. Je le rappelle, vous êtes cadre infirmier, conseillère spécialisée en santé selon Saint-Hildegarde de Bingen. Si vous souhaitez avoir des conseils spécialisés, vous pouvez la contacter au 06 62 54 11 02. Vous retrouverez Anne-Marie Profi chaque semaine pour des conseils Hildegardiens.
Les rendez-vous de la semaine prochaine.
La semaine prochaine aura lieu le 14 décembre, la deuxième rencontre du parcours Nicodème à la maison diocésaine de Caen de 9h30 à 16h. Si vous avez un témoignage à partager, que vous êtes investi ou que vous voulez faire connaître l'actu de votre paroisse, vous pouvez nous contacter par email sur vitaminec1450@rcf.fr, tout en minuscules. N'oubliez pas, sans vous, il n'y a pas d'actu, alors donnez de la voix sur Vitamine C, le magazine des chrétiens qui se bouge. Vous retrouverez Victoria Audias la semaine prochaine pour un concentré d'actu positive sur Vitamine C. Merci Fred et bonne journée à tous.